Nous déclarons que nous refusons de porter des enfants en raison de la gravité de la crise écologique et de l'inaction actuelle des gouvernements en place face à la menace qui pèse sur la survie de l'humanité.
D'abord est arrivé Lou. Puis il y a eu Morgane,
super Mimi, votre Morgane, vraiment,
et Swan, Eden.
Je vous rappellerai bientôt en attendant essayer de dormir. C'est super. Et puis, 2019.
Et le lendemain de l'appel à la grève de procréation, ma sœur m'écrit pour m'annoncer qu'elle est enceinte.
Allô, sœurette, c'est Céline. Écoute, je m'excuse, je ne sais pas quelle heure il est, mais... Félicitations, c'est une super nouvelle, je suis super contente pour vous. Écoute, elle va être aimée, cet enfant-là, c'est sûr.
Eh bien, aimée, c'est son prénom. C'est la cinquième. La cinquième à être née en un an. Ces cinq enfants ont grandi et elles sont devenues des femmes. Ce que je vais vous raconter, c'est leur histoire.
Les contes indociles.
Toutes les cinq, elles sont nées de parents qui avaient encore cet espoir de mettre un meilleur humain au monde. Mais elles grandissent dans un monde en perte de repères, avec des crises climatiques de plus en plus oppressantes, et des mouvements migratoires de plus en plus désespérés. Elles deviennent femmes avec le mouvement des grèves de procréation qui s'amplifie, ça devient un truc fou. Des milliers, des millions de femmes dans la rue, complètement nues, barbouillées de rouge, le poing levé vers le ciel. Leurs pères, leurs frères, leurs amis, leurs maris forment des haies d'honneur le long de leur itinéraire. Le mouvement se consolide de mois en mois. Ça se transforme en grève générale, en grève mondiale. On est au bord du chaos, tous les pays retiennent leur souffle. Alors, les dirigeants de ce monde, les vieux white men, c'est plus les mêmes, mais c'est toujours les mêmes. Ils se réunissent et ils déclarent par mesure d'urgence climatique planétaire l'interdiction généralisée de procréer. Devenir mère est désormais illégal. Les femmes perdent leur pouvoir ultime.
Quand des femmes se lèvent, il y a toujours des hommes pour les renverser. Récupération éhontée de cette grève des ventres par les white men pour continuer de piller la terre et de vernir leur tour d'ivoire.
Six mois après l'interdiction généralisée de procréer. Les cinq jeunes femmes ont environ 35 ans. Elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, mais ça fait des années qu'elles ne se sont pas retrouvées. Elles sont heureuses de se voir, mais elles ont le vin triste.
Elles ont toutes reçu leur convocation pour la stérilisation obligatoire. Il n'y en a aucune qui s'est présentée. Même Lou, alors qu'elle sait très bien qu'elle ne veut pas d'enfant, et même Eden, qui sait qu'elle est stérile. Elle retourne la situation dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant?
C'est l'heure de la fin de l'histoire. On se souvient de ce 27 septembre 2019. Il y a de cela 35 ans qu'un mouvement Friday for Future avait amené plus de 4 millions de personnes et plus de 6 000 villes et villages dans environ 160 pays à suivre un appel à la grève conjointe.
Leur grand-mère et leur mère s'étaient battues pour avoir le droit de ne pas enfanter, de pouvoir choisir. Leur génération en avait fait un pouvoir, un moyen de pression. Une fois de plus, on refusait aux femmes de décider du futur de l'humanité. Elles n'avaient pas l'intention de rester les bras croisés. Aimée prend la parole. Aimée est médecin. C'est une altermondialiste retirée dans un village caché du monde. Dans ce village de résistants, se sont regroupés toutes sortes de gens, notamment des scientifiques, des ingénieurs, des astrophysiciens et même des philosophes. Aimé est venue annoncer publiquement qu'elle s'opposait à la stérilisation obligatoire. Elle doit repartir dès le lendemain matin. Mais avant, elle est venue chercher Eden. Son village de résistants prépare un coup d'éclat face au gouvernement des White Men de ce monde. Ils ont besoin d'Eden et de ses recherches sur un carburant composé d'algues. Aimée invite Eden à l'accompagner et elle invite aussi Morgane, Swan et Lou à se joindre à elle. Swan déclare qu'elle pourrait profiter du voyage pour faire une action. Une marche significative, peut-être silencieuse, méditative, dans un paysage légendaire pour faire image. Avec des followers pour créer un réseau web, un mouvement international de résistance des femmes. Morgane, qui est anthropologue, déploie une vieille carte aux plis usés. Elle pointe du doigt un site archéologique en plein désert. C'est un musée à ciel ouvert où sont gardées toutes les statues de déesses mères de l'histoire de l'humanité. Morgane propose que ce site soit le point de départ de la marche. Ce serait hautement symbolique. Eden pointe à son tour un fleuve sur la carte. Le fleuve est aux portes du désert désigné par Morgane. Eden pourrait en profiter pour récolter les algues nécessaires à la réalisation du carburant. Elle déclare qu'elle sera très fière que ses recherches puissent servir la cause. Aimé suit du doigt le tracé du fleuve sur la carte, du bleu dans le vert. Elle s'arrête à l'embranchement d'une rivière. C'est là que se trouve son village. Morgane soulève la carte. Elle a griffonné un itinéraire du désert jusqu'au village d'Aimé. C'est le dessin d'une très longue marche de protestation.
Lentement, elle se tourne vers Lou. Elle n'a rien dit. Lou, c'est la poète, la femme de parole. Et elle se tait. Elle pense aux femmes mythiques. Elle pense à Cassandre. Cassandre a refusé les avances d'un dieu. Il lui a craché dans la bouche. Il l'a maudite. Cassandre a reçu le don de prédiction qu'elle lui avait demandé, mais avec la malédiction que personne ne la croit. Jamais. Cassandre, c'est une nullipare. Une femme sans enfant. Lou dit qu'elles sont les héritières de Cassandre. Et c'est comme ça qu'elles deviennent les filles de Cassandre. Le lendemain, les filles de Cassandre s'organisent et elles partent incognito. Arrivées sur place, le bus qu'elles ont pris, qui est complètement déglingué, il les lâche là. Il repart en trombe et il les abandonne à leur sort. Elles rentrent dans le site à ciel ouvert, celui des sculptures de déesses mères. Et là, elles découvrent un site complètement ravagé. Tout a été détruit. Leur première étape est un désastre. Elles marchent pendant des heures, pendant des jours dans le désert. Morgane fixe l'aiguille de la boussole. Elle traverse des nuits glaciales. Les jours, eux, sont écrasants. Et puis, un matin, elle voit une ligne verte à l'horizon.
C'est une oasis. Elle se précipite. Au milieu de l'oasis, il y a une fontaine. Avec une sculpture. Morgane la reconnaît tout de suite. C'est la première des déesses mères. Les filles de Cassandre s'agenouillent aux pieds de la déesse pour boire. Morgane se relève. Elle connaît une légende sur la statue. Elle cherche une inscription. Elle passe sa main sur le socle. La statue pivote. Il y a un escalier en dessous. Les filles de Cassandre s'enfoncent dans les entrailles de la terre, dans l'obscurité, sans avoir aucune idée de ce qui les attend. Elles se suivent. Elles font attention de ne pas glisser parce que le sol est humide. Elles avancent. Morgane fixe toujours l'aiguille de la boussole. L'air est moite. Elles retiennent leur souffle. Et puis après un temps infini, le passage s'agrandit. Elles aperçoivent la lumière. Et là, là complètement aveuglées, elles se retrouvent au pied d'une chute immense. Au pied de la chute, les filles de Cassandre découvrent le début d'une rivière. Et c'est peut-être la naissance du fleuve qu'elles veulent descendre. En tout cas, Morgane, elle y croit. Elle a confiance en sa boussole. Et là, les filles de Cassandre sont dans leur élément. En forêt, elles retrouvent les gestes qu'elles ont appris adolescentes, parce qu'elles ont fait des camps de survie. Alors, elles coupent, elles nouent, elles taillent, bref, elles font un radeau, des pagaies, et elles se lancent sur la rivière. Les filles de Cassandre se laissent filer le long de l'eau. Elles se détendent. Elles posent des questions à Aimé, la résistante. Des questions sur le village, après tout, c'est leur destination finale.
Il y a juste Swann.
Swann, elle reste silencieuse. Swann, elle blêmit un peu plus tous les jours. Pourtant, le soleil cogne sur l'eau. De temps en temps, les filles de Cassandre s'arrêtent dans des villages. Elles s'informent, elles se ravitaillent. Et puis elles finissent par apprendre qu'elles ont pris la bonne route. Effectivement, un jour, la rivière s'agrandit et le fleuve est là devant elles, majestueux. Éden, tout de suite, elle commence sa recherche d'algues. Elle observe la végétation. Le long du fleuve, elle remplit ses fioles, elle est patiente, Éden. Elle prend des notes aussi. D'ailleurs, Lou continue ses notes, ses photographies. À un moment donné, elles arrivent dans une petite ville. Il y a du réseau, fait que Lou publie d'un coup tout ce qu'elle a noté et photographié depuis le début de l'aventure. Et ça prend pas quelques jours, quelques villages. Et il y a des jeunes filles qui les arrêtent, qui veulent les prendre en photo. Lou se rend compte qu'il y a des milliers de femmes qui ont adhéré au réseau des filles de Cassandre, qui suivent leur aventure. Avec le pari des filles de Cassandre, il prend forme. Tranquillement. Et les filles de Cassandre arrêtent de compter les jours. Et le soir, elles chantent, le poing levé vers le ciel. Un matin, Morgane nage dans l'eau calme. Quand Morgane plonge, elle voit un énorme poisson barbu. Amusée, Morgane le suit.
Mais au détour d'une immense haie d'algues, Morgane perd le poisson de vue. Alors elle remonte en vitesse à la surface.
Une fois à la surface, Morgane ne voit plus l'embarcation. Aucune trace des filles de Cassandre. Morgane ne reconnaît pas la rive. Même la forêt a l'air différente. Elle sort de l'eau. Elle s'avance dans la forêt. Elle n'est pas trop rassurée. Quand Morgane trouve une femme, recroquevillée au sol, la femme est piégée. Le pied ensanglanté dans une trappe à ours. Et à ses côtés, il y a ses trois enfants. Ils sont terrifiés. Ils pleurent. Ils pleurent tellement qu'ils sont trempés. Même leurs souliers sont trempés. Même la terre autour d'eux est trempée. Morgane se précipite pour tenter de libérer la femme du piège. Et la femme se met à hurler. Et plus la femme crie, plus les enfants pleurent, plus la terre est trempée et moins Morgane arrive à desserrer le piège. La femme est terrifiée, les enfants tremblent de la tête aux pieds. Tout à coup, la femme prend la main de Morgane. Morgane, ça lui fait un électrochoc. La femme embrasse ses enfants et les remet dans les bras de Morgane. Morgane se lève. Elle se précipite avec les enfants dans ses bras. Elle court. Elle les serre fort. Morgane ne voit qu'une solution. Elle se précipite à l'eau en serrant les enfants contre elle. Le courant les emporte. Dans l'eau, Morgane aperçoit le poisson barbu. Quand Morgane remonte à la surface, l'embarcation des filles de Cassandre est là. Elles lui tendent la main. Morgane se rend compte que ses bras sont vides. Non. Morgane plonge. Morgane replonge et replonge en vain. Les trois enfants. Les trois enfants ont disparu. Les autres ne comprennent pas. Elles n'ont rien vu. Elles assurent Morgane qu'elles n'ont pas bougé. Morgane n'est pas restée plus de 2 minutes dans l'eau. Les filles de Cassandre remontent Morgane dans la barque. Une fois assise, Morgane se rend compte qu'elle a perdu la boussole dans sa chute. Les jours suivants sont lourds. Eden mène la barque, droite, l'oreille aux aguets. La région est incertaine. Morgane rame les yeux dans le vide. Morgane se maintient à la surface. Swann est toujours muré dans son silence. Lou continue de prendre des notes, des photos. Aimé a les mains crispées. Aimé craint de ne pas arriver à temps au village. Swann attend le bonsoir. Elle peut plus se taire. Son ventre a commencé le cycle des lunes. Elle est enceinte. Malgré tous les interdits, les lendemains incertains. Assise sur la rive, déjà un pied dans la vie et un pied dans la mort. Aimée tente de rassurer Swann. Aimée, qui chaque jour s'assurait que Swann mangeait un minimum, qui chaque soir vérifiait que Swann dormait bien. Morgane et Eden la soupçonnent de l'avoir su de n'avoir rien dit. Au village, Swann sera protégée. Mais avant ça, elles peuvent être arrêtées à tout moment. Swann attend la nuit et elle part seule à travers la forêt. Le lendemain et les jours suivants, chacune appelle Swann de toutes ses forces. Cherche une piste, fouille la forêt aux alentours. Elles attendent. Mais Swann ne revient pas. Elles doivent se résoudre à repartir. Elles continuent vers le village en scrutant l'eau, terrifiées à l'idée d'y découvrir le corps de Swann. Swann marche seule avec son ventre, pendant des jours. Elle ne croise aucun village, cherche à revenir vers le fleuve, continue dans la forêt. Des pertes sur ses jambes.
Elle a besoin de se reposer. Swan continue. Une barre dans le ventre. Elle essaie d'avancer, plie sous la douleur, s'accroche à un buisson. Swan, impuissante, regarde son ventre vivre sa tempête. Son ventre se secoue, son ventre se vide. Swan est incapable de toucher l'amas sanglant, informe et inerte à ses pieds. Elle fuit. Ce n'est pas de sa faute, mais elle ne le sait pas. À chaque aube, une femme vit cette mort, mais elle ne le sait pas. Swan ne sait pas. Personne ne parle jamais de ces choses-là. Swan a mal partout. Les jambes, le ventre, les épaules, le cou. Ça pèse des tonnes sur ses épaules. Elle entend des pleurs. C'est dans sa tête. Swan court pour ne plus entendre. Elle tourne en rond. Elle est perdue. Elle tombe dans un marais sans fond, sans jamais pouvoir y couler. Les pleurs continuent. Ça dure des jours et des jours, une éternité. Swan n'en peut plus. Elle sort enfin de la boue. Elle se hisse dans le premier arbre qu'elle trouve, se cale au creux de l'arbre, épuisée. Swan réalise que cette petite chose qui pleure est levée sur son épaule. Pâle, tout frêle, tremblotant, un minuscule fantôme, il a si froid. Swan le prend dans ses bras, elle parle doucement pour le calmer. Un matin, le petit être est rendu translucide. Il dort paisiblement et ne se réveille plus. Il ne se réveillera plus. Swan dépose son petit fantôme dans un lit de branches et de mousse. Elle descend de son nid. Au pied de l'arbre, Swan découvre qu'une couronne de fleurs a poussé. Elle cueille un bouquet. Cette fleur sera désormais son offrande à la mort. Puis Swan reprend la route, bouquet à la main.
Pendant ce temps-là, les autres filles de Cassandre sont arrivées au village. Chaque soir, Aimée fait le tour des maisons et allume une chandelle à chaque porte. Les femmes se rejoignent, là où la rivière rentre dans le fleuve, et elles déposent des lumières sur le fleuve. Elles espèrent l'arrivée de Swan. Elles ne savent pas qu'un commando de la police des femmes suit Swan depuis le buisson ensanglanté. Ça veut dire que si Swan arrive au village, ben le commando arrivera aussi, tôt ou tard.
Un soir, Swan voit au loin le nuage de lumière qui flotte sur le fleuve. Elle repère le tracé du sentier qui mène vers les lumières. Et elle suit ce nouveau cap patiemment. Swan ne voit pas que derrière elle, les fleurs de son bouquet sèment des graines qui poussent à toute allure et forment un rideau dense. La forêt s'épaissit. Quand le commando arrive là, il perd sa trace.
Swan arrive au village à l'heure des chandelles. Aimé était en train de faire sa ronde, elle se précipite vers elle. Elle l'entraîne à la rivière. Les autres sont là. Elles entourent Swan. Elle la serre tellement fort, elle l'étouffe presque. Les filles de Cassandre s'assoient ensemble, les pieds dans l'eau. Assises sur la rive, elles chantent. L'air est doux. La veillée est belle. Aimé offre un cadeau à Swan. Un collier avec un pendentif. Sur le pendentif est imprimée une fleur. On dit que sur le pendentif, c'est la plante de l'enfant. C'est la même fleur que celle que Swan a ramassée au pied de l'arbre. Swan dépose son bouquet sur l'eau.
Le lendemain matin, les filles de Cassandre sont à nouveau réunies. Le village est peuplé d'enfants illégaux, de familles désirées ou improvisées. Aimé désigne deux enfants à Swan. Swan reconnaît les yeux et les fossettes d'Aimé. On expose à Swan le plan d'action organisé au village. Le village est dans l'effervescence des préparatifs du départ. Eden est radieuse. Les réservoirs sont pleins de son carburant.
Ça fait tellement longtemps que le village prépare sa volte-face. L'issue a été discutée et rediscutée des tas de fois. Ça a été préparé dans les moindres détails par les plus grands scientifiques et ingénieurs. Depuis ce village de rien. Toutes et tous s'activent. Le système de recyclage de l'eau, les habitacles à peindre, la confection des parachutes, des combinaisons. Les filles de Cassandre sont de toutes les équipes. Morgane, Swan, Lou, elles aident à tout. La couture, la soudure, la peinture. Elles dorment vraiment pas beaucoup. Elles ont le regard fiévreux. Aimé, elle rayonne. Elle prépare tout, les victuailles, le matériel de soins. Elle délègue les tâches. Elle a toujours un sourire, un encouragement. Et là, on annonce l'arrivée des troupes de l'armée. Il faut partir maintenant, prête, pas prête. C'est le départ. Le vrai. Ouais. C'est le vrai cette fois. Et le dernier. Les filles de Cassandre regardent le ciel immense. Dans leur combinaison trop grande, dans leur peau d'aventurière, de femme, de mère. On voit déjà des nuages de poussière au loin. Les filles de Cassandre s'installent dans l'habitacle. L'armée est aux portes du village. Maintenant. Les moteurs grondent. La propulsion est saisissante et les capsules montent dans le ciel dans un jet de couleurs. Les femmes du réseau des filles de Cassandre qui voient le décollage, elles prennent des photos et elles les relaient aussitôt. Leur départ est suivi par des milliers de personnes, le cœur battant. Et les fusées traversent déjà l'atmosphère quand toutes les caméras se braquent sur les messages d'adieu. Des poèmes de Lou. Et les poèmes y virevoltent dans l'air pendant des jours.
Une fois en orbite, les filles de Cassandre ont les yeux rivés sur la Terre, sans encore trop y croire. Aimée sort son matériel de médecin. Elle appelle chacun pour un léger check-up, pour s'assurer que tout le monde va bien. C'est le tour de Morgane. Elle est plus l'ombre d'elle-même depuis sa chute dans le fleuve. Aimée et elle parlent longtemps. Morgane est enceinte de 3 enfants. Morgane cherche le dessin du fleuve sur la terre, du bleu dans le vert.
Les filles de Cassandre, un conte de Céline Jantet. Une création de La Quadrature en collaboration avec Audiotopie et Magnéto. Pour d'autres histoires, suivez les contes indociles.